pendant cette période de confinement, nous avons eu les témoignages de figures du numérique qui nous ont expliqué leur méthode pour passer l'orage. Du DG France de Slack en passant par le directeur numérique de l'équipe et même la country manager France de Shopify, tous nous ont exprimé la même excitation de voir enfin les outils du numérique, du côté professionnel pour les entreprises, trouver un écho à la hauteur de leur potentiel. Que ce soit Zoom, Slack, Teams, Google Meet, les chiffres explosent, les chiffres d'utilisation, les statistiques, et Dropbox ne passe pas à côté de cette tendance. J'ai voulu en savoir plus sur la vision de Thibaut Champé, directeur général France chez Dropbox, sur cette adoption massive du digital dans les entreprises françaises et les potentiels retours de flamme. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital, et on y va.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Ambroise.
Dropbox est une solution de stockage en ligne qui est plutôt quand même bien connue en France et même en Europe. Vous êtes basé en Californie et vous possédez un bureau en France. Peux-tu nous décrire l'équipe française que tu gères ?
Alors effectivement, on est principalement basé à San Francisco en Californie, mais on a ouvert depuis 2015 des bureaux en Europe. Donc on dispose aujourd'hui d'un siège qui est basé à Dublin. On a à peu près 250 personnes. Et puis, on a des bureaux, on va dire, qui sont répartis à travers l'Europe, donc notamment un à Paris, dont je m'occupe, où on a environ aujourd'hui à peu près une trentaine de personnes qui s'occupent du marché français. Donc, ça va aussi bien des équipes commerciales qu'à des personnes marketing, des personnes qui travaillent sur le produit aussi. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir un contact plus direct avec nos clients sur le terrain et de faire grandir notre activité en France. En quelques chiffres, Dropbox, donc aujourd'hui on a plus de 600 millions d'abonnés, on est environ 2900 en termes de nombre d'employés à travers le monde, et puis on est surtout présent avec notre solution pour les entreprises qui s'appelle Dropbox Business auprès de plus de 50% des entreprises du Fortune 500, et au total on a plus de 500 000 équipes professionnelles qui utilisent Dropbox Business au quotidien. Et la force de notre solution aujourd'hui, c'est évidemment l'intégration avec tous les outils du quotidien. Donc tu en as cité quelques-uns comme Office 365, G Suite, Salesforce, Slack, Zoom et d'autres outils. On essaye de couvrir un maximum des outils professionnels qui sont utilisés. Donc là, en l'occurrence, l'outil qu'on utilise, Zencastr, est aussi intégré avec Dropbox.
En deux ou trois chiffres, comment votre activité a évolué chez Dropbox depuis le début de la crise sanitaire ?
On a en effet vu une hausse de certains services pendant cette période de confinement. À la fin du premier trimestre, Dropbox a constaté en fait trois fois plus de demandes de signature électronique HelloSign qu'au mois de janvier et février 2020. Donc HelloSign est aussi une des solutions que l'on a dans notre portfolio. Et puis d'autres chiffres. Donc on a une intégration qui se fait avec Zoom où on peut directement à partir de Dropbox créer une conférence et commencer à échanger avec des personnes en fonction des gens qu'on a sur un document. Là, on a aussi vu que ces intégrations, leur utilisation, elle a augmenté de 2000%, donc c'est assez conséquent. Donc ça, c'était en avril par rapport à ce qu'on voyait au début de l'année.
Récemment, tu t'es exprimé sur un média et tu as cité Churchill. « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et pourtant, pour certains salariés, eh bien, ils ont plutôt l'impression que justement, le changement les a pris à la gorge en s'immisçant dans leur domicile privé, en les noyant de visio tout au long de la journée. N'as-tu pas peur que cette marche forcée puisse se retourner contre toi ? Ça veut dire des acteurs du numérique ?
C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui arrivent. Donc, on a eu un bouleversement qui a été assez profond de la façon dont on travaille. On s'est tous retrouvés à devoir travailler de chez nous, avec toutes les contraintes qui ont été aussi là avec nous. C'est-à-dire que on a eu effectivement des enfants dont il a fallu s'occuper. Moi, j'ai trois garçons. Il a fallu que je m'occupe aussi de mes trois garçons pendant cette période, puisque les écoles étaient fermées. Donc, ça a forcé les gens effectivement à repenser la façon dont ils travaillaient. C'était plus maintenant, je vais au bureau de 9h à 17h ou 9h à 18h. Il fallait être beaucoup plus flexible et beaucoup plus fluide. Et donc, on voit que toutes les entreprises qui finalement avaient déjà un peu cette culture du télétravail, cette culture beaucoup plus flexible, beaucoup plus collaborative, qui aussi se fait à travers des outils qui permettent de faire du synchrone, mais de l'asynchrone de manière très facile, ces entreprises-là ont réussi à s'adapter plus facilement à la situation. Et puis pour des personnes qui étaient vraiment dans un mode qui était beaucoup plus traditionnel, on va dire, le choc a été un peu plus fort. Et effectivement, on a vu qu'il y avait tout un tas de choses qui en découlaient. Alors, on va pas parler du Zoom burnout, mais ça pourrait presque être ça. La vidéoconférence s'est imposée comme nouveau moyen de communication. On s'est aussi vite rendu compte que faire trop de vidéoconférences, c'était quelque chose qui était très fatigant pour les personnes. Et donc finalement, il faut petit à petit trouver son équilibre entre effectivement pouvoir continuer à communiquer avec les personnes, mais aussi utiliser des outils désynchronisés. Donc tu mentionnais Slack tout à l'heure, qui est un bon exemple pour faire de la communication en temps réel. Et après, il y a tous les outils de collaboration, dont notamment Dropbox, sur lesquels on va pouvoir aussi travailler à travers des fichiers et des dossiers sans avoir forcément besoin d'être en visioconférence et pouvoir travailler de manière asynchrone. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Et effectivement, nous, on voit que globalement, il y a un aspect qui est quand même assez positif, c'est que la transformation digitale va beaucoup s'accélérer dans tout un tas d'entreprises, puisqu'il va falloir aussi pouvoir gérer l'après-crise. Et le retour au travail va pas se faire de manière comme avant la crise à 100% pour tout le monde. On va pas tous retourner au bureau, hein. On voit bien que toutes les entreprises qui choisissent aujourd'hui de rouvrir leur bureau le font de manière très graduelle. D'une part parce qu'il y a des problématiques de on veut protéger quand même nos salariés et les transports en commun. Il faut aussi considérer que c'est des endroits qui peuvent être à risque. Et puis il y a eu toute cette période où il a fallu aussi adapter les bureaux pour que la distanciation soit respectée, les flux ne soient plus des flux qui se croisent entre ceux qui entrent et ceux qui sortent des bâtiments. Donc, tout ça fait que globalement le télétravail va rester quelque chose d'assez on va dire d'assez présent et que de plus en plus de personnes vont pouvoir y avoir accès pour un jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine. Et donc il faut effectivement mettre en place toute l'organisation qui va bien. Donc c'est d'un point de vue de l'entreprise une responsabilité et c'est aussi côté employé trouver en fait le bon mode de fonctionnement. Et là aussi, je pense que les entreprises peuvent accompagner ces changements et essayer de guider les personnes le mieux possible.
C'est vrai que la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que y a pas une colère qui va se cristalliser contre des représentants de ces modes de travail qui des fois apportent justement eh bien des contraintes, comme tu as pu très bien l'expliquer. En fait, si je pose la question différemment, c'est est-ce que vous, acteurs du numérique, outils du numérique, vous avez une responsabilité pour faire en sorte eh bien que l'usage se fasse justement dans le respect de ce qu'on pourrait appeler à la fois la vie privée, la déconnexion, ces sujets qui sont très importants aujourd'hui.
Alors, au sein de l'outil, effectivement, on va faire en sorte de faciliter la vie des gens. Donc, on voit effectivement qu'aujourd'hui, quand tu travailles dans le tertiaire et que tu es devant un ordinateur une bonne partie de ta journée, tu vas facilement passer entre une quinzaine, voire une vingtaine d'outils dans ta journée pour aller chercher de l'information. Donc, on va jongler entre peut-être son Slack, son Trello, son Zoom, sa messagerie, ses dossiers. Et ça, finalement, ça crée aussi un peu de stress chez les gens. Et finalement, on passe beaucoup de temps à faire ce que nous, on a appelé le work about work et pas forcément être complètement sur le travail sur lequel on va apporter de la valeur ajoutée. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et justement, on pense qu'on a une responsabilité d'apporter aux gens une solution qui soit plus sereine et avec laquelle ils vont pouvoir être plus efficaces. Donc c'est ce qu'on a finalement appelé le Smart Workspace, qui se traduit aujourd'hui par cette nouvelle application Dropbox que l'on va installer et dans laquelle on va retrouver des espaces de travail qui sont organisés autour des documents. Et là où c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'on va apporter de l'intelligence artificielle là-dessus, qui va permettre de surfacer pour l'utilisateur le bon document au bon moment. Un exemple très concret, moi, avant que je me connecte ce matin, j'ai une équipe marketing qui m'a partagé des médias briefings. Et puis, comme dans mon calendrier, j'avais notre entretien de ce matin, tout de suite, quand je me suis connecté ce matin, Dropbox m'a dit, tiens, il y a ce document-là qui peut être pertinent par rapport à l'interview que tu vas avoir. Donc, on essaye effectivement de rendre le travail beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein, en essayant de mettre en avant pour l'utilisateur ce qui va lui apporter de la valeur.
On parle beaucoup du monde d'après. Beaucoup de personnes voient dans cette crise la fameuse opportunité de renverser la table, de revoir certaines dérives qui étaient montrées du doigt depuis un moment. Je pense notamment à la gestion de nos ressources premières. En quoi les outils du numérique comme Dropbox ont leur place ?
Le monde d'après, ça va être effectivement un monde où on peut imaginer que pendant un certain temps, tout ce qui va être voyage d'affaires, transport dans des endroits qui sont assez lointains. Donc nous, on a notre siège qui est effectivement à San Francisco, où on faisait beaucoup de déplacements. Tout ça va peut-être effectivement se calmer pendant un certain temps. On va pas certainement revenir à une situation avant Covid, avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc tout ça fait que les entreprises vont effectivement devoir s'adapter à ça. Et le nouveau normal, finalement, ça va être d'avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans l'entreprise, mais qui vont pouvoir travailler de n'importe où. Donc, je pense que le gros impact que l'on va avoir au niveau du monde du travail, sans parler après des impacts sur la société qui sont aussi d'autres choses, mais sur le monde du travail, ça va être que de plus en plus, les gens vont pouvoir travailler un peu de n'importe où, et que ça va avoir plusieurs bénéfices pour les entreprises. D'une part, on l'a bien vu pendant le confinement, toute la partie de déplacement que l'on doit faire pour aller à son travail, déjà, elle est supprimée. Et ça, notamment dans les grandes métropoles, où souvent ton temps de commute peut être d'une heure, voire plus, où ça génère du stress, bah, finalement, c'est quelque chose dont on va pouvoir s'affranchir. Ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, une fois qu'on est sur des workforce qui sont plus distribués, on peut aussi se dire que, finalement, quand je vais pouvoir recruter un poste, au lieu de le pourvoir dans ma zone de chalandise qui va être autour de mon bureau, qui va être peut-être de 50 km en fonction des transports qui sont en place dans cette région-là, pourquoi ne pas recruter quelqu'un qui peut être complètement ailleurs dans le pays, complètement ailleurs dans le continent, et finalement j'ai accès à un pool de talents qui va être peut-être beaucoup plus large. Donc là aussi, ça va beaucoup, je pense, fluidifier les échanges de compétences et la capacité de se dire finalement, si je veux recruter quelqu'un aujourd'hui, ben, je peux le faire sur un marché qui est beaucoup plus étendu que juste regarder l'île de France, par exemple.
Complètement, hein, complètement. Et c'est vrai que c'est intéressant et que c'est même appétissant, si je peux le dire ainsi. Mais on oppose souvent télétravail et relations sociales. On perd le contact physique, hein, quand on est en télétravail. Et il y a tout un mode de communication non verbale qu'on ne voit plus, qu'on ne peut plus appréhender. Et on voit que des fois, ça peut créer un certain manque. Comment un outil comme Dropbox essaye d'équilibrer ce manque d'interaction physique?
Le manque d'interaction physique, il n'est pas forcément lié juste à nos outils. Il est effectivement lié au fait que si on se retrouve toute la journée devant un ordinateur, c'est effectivement moins social que d'être en face de personnes vraies physiques. Ça, c'est un fait. Nous, ce qu'on va essayer d'apporter à travers nos outils, c'est justement cette capacité à interagir de manière asynchrone avec les gens. Et finalement de le faire de manière très efficace. Donc on va gagner beaucoup en efficacité à être sur les outils comme Dropbox, comme HelloSign. Et finalement les interactions sociales, on va quand même les retrouver à un certain moment dans nos échanges, hein, mais ils seront peut-être différents. C'est-à-dire que plutôt que de faire beaucoup de réunions pour décider des choses opérationnelles, on va voir que ces choses opérationnelles-là, on va très certainement pouvoir en passer un certain nombre juste à travers les outils, en échangeant avec les personnes, et que finalement, on va garder l'interaction sociale pour justement ce qu'on apprécie le plus, c'est-à-dire des interactions sociales qui vont être enrichissantes. Et donc ça aussi, ça va peut-être faire évoluer la façon dont on appréhende en fait les interactions au travail. Ce qui est aussi important, je pense, là-dedans, c'est d'avoir un accompagnement qui est très fort des employés. Donc là, on s'est retrouvés tous en marche forcée à devoir passer au télétravail, et finalement dire aux gens, bah maintenant vous restez chez vous, vous avez un ordinateur, donc tout roule, c'est un petit peu insuffisant, et il faut clairement accompagner les gens pour que cette transition se passe le mieux possible. et que ce soit le vécu d'une façon positive par toutes les personnes.
Comme les autres entreprises, je suppose qu'en interne, chez Dropbox, vous avez été impacté par le Covid-19. Comment vous avez fait évoluer vos modes de travail? Est-ce que vous-même, vous avez repoussé certains projets, lancé d'autres projets?
Alors nous, on a déjà un peu cette culture du travail à distance, puisque bah, juste pour te donner un exemple, moi je m'occupe du bureau français, mais je m'occupe aussi de l'ingénierie sur l'Europe. Et dans cette responsabilité-là, j'ai une seule personne qui est à Paris et toutes les autres personnes qui sont réparties à travers d'autres sites en Europe. Donc de toute façon, je travaillais déjà à distance avec ces personnes-là. Et ça, c'est un petit peu symptomatique chez nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà bien ancré. Ce qu'on a fait depuis le début de la crise, c'est que nous, on a très vite pris le parti de dire à tout le monde de travailler de chez eux. On a fermé l'ensemble de nos bureaux assez vite. Aujourd'hui, on a décidé aussi de garder nos bureaux fermés jusqu'au 1er septembre, vraiment pour aussi essayer de réduire la transmission du Covid et de jouer un peu notre part. Et après, en interne, on a aussi beaucoup accompagné nos employés. D'une part, on leur a donné des allowances pour pouvoir acheter des matériels de bureau pour chez eux. Donc, c'est tout ce qui va être les périphériques dont on peut avoir besoin, plus grand écran, des souris, des claviers, des adaptateurs, etc. Mais aussi des chaises de bureau, un bureau. Donc, on a mis ça en place assez vite. On a aussi mis en place une allowance pour les accès à Internet, pour aider les personnes qui étaient dans des situations où bah, ils pouvaient peut-être upgrader leur accès à Internet, mais ça coûtait un peu plus cher. Donc on leur a dit, bah voilà, vous pouvez avoir une allowance pour faire ça. Et puis, donc en interne, on travaille beaucoup avec des outils comme Zoom, comme Slack, comme Dropbox, évidemment. On a mis en place tout un tas de bonnes pratiques, en fait, qui se sont assez vite imposées, comme des cafés virtuels qu'on fait avec nos équipes. On a aussi tous les vendredis ce qu'on appelle un work from home workshop qui est fait par nos équipes RH et learning and development qui sont là pour faire des échanges de bonnes pratiques et partager un peu les expériences de chacun. On a aussi eu des interventions de psychologues et de personnes qui sont spécialisées dans les milieux confinés. Donc, des personnes qui, par exemple, ont travaillé dans des milieux comme des sous-marins, qui sont venues nous expliquer comment ça se passait et partager avec nous des bonnes pratiques. Donc, et tout ça, en fait, se fait de manière assez transparente et tout le monde chez nous partage assez facilement ce qu'il vit, quoi. Donc, on a une culture aussi interne qui est assez forte, qui fait que les gens se font confiance, que les gens collaborent facilement entre eux. Et quand on a un problème, on va tout de suite aller demander de l'aide à quelqu'un.
Est-ce que tu dirais que Dropbox est résilient face à une crise comme on a pu observer, comme on peut toujours observer? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que par leur mode d'organisation, par des fournisseurs, des flux de marchandises qui étaient dépendants, bah voilà, d'une sorte de logistique mondiale et qui, puis quand ça se grippe, bah ça grippe tout le monde. Est-ce que tu dirais que Dropbox, il y a des choses à revoir quand même si c'est une entreprise du numérique, ou au contraire, Dropbox a su prouver là dernièrement bah, que c'est une entreprise résiliente qui est capable de passer à travers ce genre de crise?
On a un sondage trimestriel qu'on envoie à nos employés. Et donc justement, là, on avait un sondage en mai. Et ce sondage, donc on a eu les résultats la semaine dernière. Hein, et en fait, on a eu un score d'engagement des collaborateurs qui était en hausse par rapport au dernier sondage. Donc on voit que globalement, au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qui chez nous est assez bien vécu. Et puis, encore une fois, on est dans une culture qui est très axée sur la bienveillance, le respect des collaborateurs, et on a tout de suite encouragé nos personnels à leur dire, voilà, si vous avez des situations où vous avez des enfants à garder, on comprend tout à fait, prenez du temps pour vous. D'ailleurs, chez nous, on a des congés qui sont illimités pour tous les employés, mais ça, c'était quelque chose qui était déjà en place avant. Donc, globalement, tout ça nous a aidé à traverser cette crise d'une manière assez sereine. Et j'ai envie de dire, au-delà des outils qui évidemment sont importants parce qu'avec des bons outils, on travaille plus facilement, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est la culture d'entreprise. Et post-crise, il faut qu'effectivement un certain nombre d'entreprises puissent aussi avoir une certaine introspection sur leur culture d'entreprise et voir comment est-ce que ils ont interagi avec leurs salariés. Et finalement, on voit que les entreprises qui se sont mieux sorties de cette période difficile, c'est ceux qui prenaient le plus soin de leurs salariés, avaient une attitude assez bienveillante. Moi, j'ai parlé avec certains acteurs du retail où finalement la situation était beaucoup plus complexe parce que à partir du moment où vos employés sont pas trop engagés dans la stratégie de l'entreprise et ils sont plutôt considérés comme quelqu'un qui fait une tâche et ça s'arrête là, leur engagement derrière est moins fort quand on traverse des périodes de turbulences comme celles qu'on a vécues.
Merci Thibaut pour cet échange. Il est riche et ça nous permet d'avoir un vrai retour d'expérience d'une entreprise californienne qui fait office de référence dans le stockage en ligne. Donc ça va être certainement source d'influence pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cette conversation, soyez curieux. Culture numérique, c'est aussi une quotidienne et de nombreuses autres interviews. Vous n'avez qu'à scroller notre fil sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très bientôt Thibaut.
Merci Ambroise, à très bientôt.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.